Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal, Jocelyne Moussa Oupondé.
Tension à Bounia, les conducteurs des taxis-motos protestent contre l'obligation de porter casque et gilet, tandis que la police saisit des motos et interpelle certains manifestants. Au Nord Kivu, l'AFC M23 renforce ses effectifs et sa logistique sur l'axe Kipese-Lubero. La situation inquiète la société civile et les FARDC alors que les pourparlers des Doha stagnent. L'invité de la rédaction est Frédéric Amani, l'analyste politique et chercheur associé en sciences politiques à l'université de Lubumbashi, revient sur les grandes lignes du discours prononcé mardi par le chef de l'État à la tribune des Nations Unies à New York. Bonsoir à tous. Commençons à Bounia où la tension est montée ce jeudi matin. Des conducteurs des taxis-motos ont envahi plusieurs artères principales de la ville pour protester contre la décision de la police de circulation routière qui oblige désormais chaque motard à porter un casque et un gilet. Certains manifestants ont été interpellés et leurs motos saisies. Selon les autorités, cette mesure de sécurité publique vise à identifier les motards et à lutter contre la criminalité urbaine. Le point dans ce reportage de Jean-Claude Lokidile.
Depuis les premières heures de la matinée, des groupes de motards sillonnent la ville à coups de klaxons pour manifester leur désapprobation de la décision de la police leur imposant le port de casque et de gilet. La police rappelle pourtant qu'il s'agit d'une mesure salutaire qui est destinée à lutter contre les accidents de circulation. Le commissaire supérieur Ndoroliri Asimwe, commandant de la PSR à Bounia, précise.
Nous avons fait passer beaucoup de sensibilisations pour les casques juste pour leur protection. Et à ce qui concerne les gilets, avec beaucoup de criminalités que nous connaissons dans notre ville de Bounia, il arrive des fois que ces criminels ne sont pas identifiés. Sur chaque gilet, il y a un numéro et c'est facile maintenant d'identifier ces motards-là.
Une décision qui ne fait pas l'unanimité. Certains motards qui se sont déjà procurés ces équipements dénoncent des agressions de la part de leurs collègues qui refusent d'appliquer la mesure. Luando Kalimba, un motard rencontré dans le riz de Bounia, s'indigne.
Nous qui nous sommes permis déjà d'acheter avant, d'autres se sont contestés immédiatement. Donc une fois qu'ils te voient avec le casque ou avec le gilet, ça devient tout à fait difficile de les fréquenter.
D'autres enfin estiment que le prix de $20 américains pour obtenir gilet et casque est trop élevé. En attendant une solution durable, les rues de Bounia restent sous tension entre partisans et opposants à cette nouvelle mesure. Bounia, Jean-Claude Bocchi, les radios de...
Lutte contre les embouteillages à Kinshasa. Les militaires des FARDC seront déployés dans les rues de la capitale dès ce lundi 29 septembre pour appuyer les éléments de la police afin de bien assurer la régulation du trafic routier. Décision prise mercredi à l'issue d'une réunion entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, les responsables de la police nationale congolaise, notamment la police de circulation routière et l'inspection générale de la police. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du suivi des instructions du président de la République issue de la dernière réunion du Conseil des ministres relative à la problématique des embouteillage dans la capitale. Grâce à Mzati nous fait le point.
Outre les déploiements de l'armée sur les routes, le gouvernement exige le port obligatoire du casque par les conducteurs des taxis-motos et leurs passagers, ainsi que la limitation de leur champ de circulation par l'interdiction formelle d'accès au centre-ville. Ainsi, le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, demande à la police de passer à l'exécution de ces mesures. Le commissaire provincial de la police à Kinshasa, Israël Kantoubakoulou, explique.
Nous venons de voir les instructions fermes de sa part pour que puisse mettre en pratique et que nous puissions juguler, si pas à 100%, mais à des pourcentages considérables des embouteillages de la ville de Kinshasa. Il y a eu des instructions que nous allons mettre en application dès ce lundi par les effectifs de la police de circulation routière, appuyés par les éléments des 14 militaires du bataillon PEM pour nous accompagner à cette tâche-là.
Jacquemain Chabani instruit également l'inspection générale de la police de veiller à une lutte efficace contre les comportements inciviques de certains agents de l'ordre. Il est demandé aussi aux conducteurs de respecter strictement le code de la route. Le gouvernement annonce par ailleurs une nouvelle dotation en moyens logistiques et matériels au profit de la police en vue d'améliorer les conditions de travail des agents et accroître leur efficacité sur le terrain.
Au Kassai central, les autorités alertent pour la construction du pont Lueta, un ouvrage qui relie la localité des Samwanda à la cité de Luisa. L'ancien pont flottant, devenu vétuste, a été fermé à la traversée par l'office de route provinciale. Mais le problème reste entier. L'office de route du Kassai central affirme n'est pas disposé des moyens nécessaires pour construire un nouveau pont métallique. Face à cette situation, le directeur de cabinet du gouverneur, Djuring Gandou, appelle la direction générale de l'office des routes à intervenir d'urgence. La construction de ce pont permettrait de désenclaver la région et faciliter les transports des passagers et des marchandises entre Kalambambouji, Mweneditu et Luisa. On écoute Djuring Gandou Lukadi au micro de Richard Junior Kamonga.
Là, je parle plus précisément du pont Lueta qui va nous créer des problèmes. Le pont est déjà cassé et je demande aux autorités de l'office de route au niveau national, de Foner et le ministre des ITPR de s'impliquer pour que la solution soit trouvée en urgence. Il n'est point besoin ici de démontrer l'importance de cette route que nous appelons la route du salut. Mais lorsque le pont est cassé, il y a la population riveraine qui commence à transporter les choses à même les épaules pour le faire traverser de l'autre côté de la rive. Donc là, ça pose un peu problème et nous demandons que l'office des routes prenne la chose en main. La direction provinciale de l'office des routes manque de tout. Nous n'avons pas d'équipement. Nous avons fait des devis. On a déposé sur la table du directeur général, mais aussi sur la table DG de Foner, pour qu'on puisse ne fût-ce qu'envoyer l'argent qui a été demandé pour la réparation des équipements et aussi terminer le pont qui a été déjà entamé. Mais là, nous sommes abandonnés à notre triste sort.
En bref, la RDC et le Rwanda ont convenu lors de la deuxième réunion du mécanisme conjoint de coordination sécuritaire tenu le 17 et 18 septembre à Washington de la mise en place d'un ordre opérationnel au port pour faire progresser le concept d'opération CONOPS adopté dans le cadre de l'accord de paix signé entre les deux pays sous l'égide des États-Unis. Selon un communiqué du département d'État américain publié aujourd'hui, l'ordre opérationnel qui entrera en vigueur le 1er octobre prochain prévoit notamment la neutralisation des FDLR et groupes associés, la levée des mesures défensives du Rwanda ainsi que le rétablissement de l'autorité de l'État congolais. Selon le communiqué, les parties ont réaffirmé leur engagement à promouvoir la paix et la stabilité dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Pendant ce temps, sur terrain, l'AFC M23 accroît ses effectifs et ses moyens logistiques sur l'axe routier Kipese-Lubero-Centre dans les territoires de Lubero, Nord Kivu, un axe stratégique qui mène vers plusieurs agglomérations encore sous contrôle des FRDC. La société civile et des sources locales redoutent une reprise des hostilités avec les FRDC alors que les pourparlers de Doha sous médiation qatari stagnent. Les détails avec Martial Papimukeba.
Le renforcement de l'AFC M23 en hommes et en matériel est observé depuis une semaine à Kipese, Katondi, Munyakondomi et Vulera, occupés par les rebelles depuis près de 8 mois, des localités situées à seulement 10 à 20 kilomètres de Lubero Centre, chef-lieu du territoire. D'autres renforts sont signalés dans la commune rurale de Kirumba, sur un axe menant vers les Graben, une zone lacustre à la limite du territoire de Beni. Des sources locales craignent des offensives de l'AFC M23 contre plusieurs agglomérations stratégiques de Lubero, ouvrant la voie vers la ville commerciale de Butembo. Des sources sécuritaires confirment également ces renforcements dans les sites de Lubero. Depuis février 2025, l'armée ougandaise UPDF s'est déployée aux côtés des FRDC dans les sites des Lubero pour contenir l'avancée rebelle. Leur position avancée commune se situe actuellement à Kasuo, à une quarantaine de kilomètres de Lubero Centre. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Toujours au Nord Kivu, plus de 100 familles, soit au moins 314 réfugiés rwandais, sont à nouveau rapatriés dans leur pays. Ils ont quitté la RDC hier mercredi pour le Rwanda, traversant en sécurité et dignité la frontière de la Grande Barrière, surnommée la Corniche. À ce retour volontaire est facilité par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, dans le cadre d'un processus continu initié depuis les débuts de l'année. Les détails avec vous, Alain Irung.
Il s'agit ici du 13e convoi de rapatriement des réfugiés rwandais organisé par le HCR en collaboration avec les autorités congolaises et rwandaises depuis le début de cette année 2025, fait remarquer le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Au total, 101 familles, soit environ 314 réfugiés rwandais, ont été rapatriés dans leur pays dans ce convoi. Plusieurs parmi eux, en l'occurrence les plus jeunes, sont nés sur le territoire de la République démocratique du Congo, des parents rwandais, arrivés en 1994, indiquent d'autres sources concordantes. Cette opération porte à 1472 familles, soit un cumul de 4813 individus déjà rapatriés au Rwanda à partir de Goma au nord Kivu depuis le début de cette année 2025, précise le HCR. L'agence onusienne ajoute que ce rapatriement est librement consenti et accompagné des garanties de sécurité.
En Ituri, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en charge de la protection et des opérations en visite dans la province s'est rendue, c'est jeudi, à Tchabi, entité située à environ 156 kilomètres au sud de Bounia, dans le territoire d'Irumu. Accompagné d'une forte délégation, dont le gouverneur militaire de province et le chef de bureau de la MONUSCO Ituri, Viviane Van Depper, a rencontré les représentants de la communauté locale. Elle a également procédé à la remise officielle aux autorités du nouveau commissariat de police locale, dont la construction a été financée par la MONUSCO dans le cadre des projets à impact rapide CUIPS. Depuis Tchabi, trouvons notre envoyé spécial Martial Kizabiamongo.
Ce nouveau bâtiment de la police nationale congolaise vient remplacer l'ancien construit à l'époque coloniale et qui était dans un état de vestigie avancé. Il est équipé de matériels informatiques et de mobilier. La population composée en majorité des retournés salit cet appui de la MONUSCO. Elle affirme que c'est le signe de l'espoir pour les retours de la paix à Tchabi, entité plusieurs fois victime des exactions des rebelles des ADF. Elle souhaite cependant le déploiement rapide des éléments de la police nationale congolaise PNC dans les milieux pour consolider la relative accalmie observée sur place dans plusieurs semaines. Nous avons l'espoir d'une bonne sécurité dans notre entité victime plusieurs fois des exactions des rebelles des ADF, ont déclaré les habitants. Comme en réponse à leur doléance, le gouverneur provincial, le général Johnny Luboya Nkashama, a promis le déploiement rapide de la police dans cette entité pour la protection des civils et les retours effectifs de l'autorité de l'État à Tchabi. De son côté, Viviane Van Depper a réitéré le soutien de la MONUSCO au FARDC et à la police nationale congolaise pour pacifier cette entité sous menace des rebelles des ADF. Depuis Tchabi, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Autre nouvelle, la Fédération nationale des enseignants du Congo, Union nationale des travailleurs du Congo, FENECO, UNTC, a distribué mardi des kits scolaires à des enfants qui autrefois étaient employés comme travailleurs dans différents domaines. Ceux-ci ont été inscrits dans les écoles dans les cadres de la gratuité de l'enseignement de base. C'est dans le cadre du projet de création d'une zone libre de tout travail des enfants dans la cité de Kiliba, Sud Kivu, qui vise à éradiquer le travail des enfants et à offrir une voie vers l'éducation dans des zones meurtries par les violences et l'instabilité sécuritaire. Sarah Soumbela nous en dit plus.
Selon Paul Fanaka Alfayo, président provincial de la FENECO UNTC, le projet de création d'une zone libre de tout travail des enfants dans la cité de Kiliba, au sud Kivu, a permis de récupérer 356 élèves, dont 200 qui ont reçu des kits comprenant manuels, cahiers, stylos et lattes dans 9 écoles des Kawizi Kaliba Centre, Kaliba Onde et Runingo dans les territoires d'Ouvira. Cette aide intervient alors que de nombreux élèves de ces entités souffrent d'un manque criant de ressources pédagogiques, notamment de manuels, cahiers et uniformes. Pour lui, ces gestes permettra aux enfants d'étudier dans des bonnes conditions et permet aux familles déséquilibrées par la guerre de retrouver un espoir. Il faut noter que l'enquête menée en décembre 2024 a révélé 1620 enfants travailleurs dans la cité de Kiliba, dans des activités champêtres, élevage, garde-bébé, commerce ambulant, briqueterie et autres.
La province du Maniema va bientôt disposer d'un bureau de l'ordre des ingénieurs agronomes. L'objectif de l'ordre national est de bien structurer ce secteur afin de permettre aux ingénieurs agronomes d'accomplir correctement leur mission sur terrain. C'est le secrétaire rapporteur national de cette structure qui séjourne à Kindu, qui l'a dit à Radio Okapi juste à son arrivée. Selon l'ingénieur Dieudonné Boutoumbi, l'installation de ce bureau sera précédée par une assemblée générale extraordinaire et élective des ingénieurs agronomes. L'ingénieur Dieudonné Boutoumbi Kabongo s'est confié à Florence Kizalunga.
Je suis dans une mission officielle de l'ordre national. Une mission qui a pour but d'organiser la première assemblée générale extraordinaire et élective du premier bureau de l'ordre dans la province de Maniema. Autrement dit, l'ordre n'a jamais existé dans la province. C'est à l'issue de cette assemblée générale que l'ordre va exister. Imaginez, aujourd'hui là, il y a des gens qui se présument être agronomes dans beaucoup de fermes parce que il n'y a pas une identification nationale pour chaque personne qui pose des actes en tant qu'agronome. Mais l'ordre va donner cette importance-là. Comme ça, tous les charlatans là, on va les mettre hors état de nuire. Le rôle des agronomes d'une manière générale, toutes les catégories confondues, c'est de nourrir la population. L'agronome a un rôle à jouer, nous disons dans notre langage, de la fourche à la fourchette. C'est la fourche qui retourne le sol pour qu'on mette les semences. La fourchette nous permet de manger. C'est-à-dire que l'agronome a un rôle à jouer à tout le niveau. Une fois que l'ordre va aider la profession à s'organiser, derrière cette organisation, c'est pour canaliser les actions que nous allons poser pour bien produire, maximiser nos productions, c'est-à-dire que matérialiser les potentialités agricoles que nous avons, d'une manière générale, mais en particulier pour la province de Maniema.
Actualité internationale.
L'ex-président français Nicolas Sarkozy, condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt, a été différé pour association des malfaiteurs. Il a toutefois été relaxé de faits de corruption lors de son jugement. C'est jeudi. Un appel ne pourra pas suspendre son incarcération. Ses co-accusés Claude Guéant et Brice Hortefeux écopent de 6 et 2 ans de prison respectivement, dont l'affaire du financement libyen de la campagne de 2007.
L'invité.
Notre invité est Frédéric Amani, analyste politique et chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi. Il décortique les grandes lignes du discours du chef de l'État mardi à la tribune des Nations Unies à New York. Frédéric Amani s'entretient avec Alain Irung.
Frédéric Amani, bonjour. Vous avez suivi le discours du chef de l'État à la tribune des Nations Unies. Quelle analyse en faites-vous de manière générale?
Bonjour. Permettez, avant de répondre à votre première question, je voudrais ici préciser une chose. À la tribune des Nations Unies, chaque État fait son discours par rapport à ce qu'il pense, par rapport à ce qu'il peut apporter ou ce qu'il a apporté. Et je pense que le discours du président Félix a porté la voix congolaise dans les instances internationales et de mon point de vue, son discours a été ponctué par des temps forts. Un temps d'espoir et un temps de déception. Espoir en évoquant les 8 décennies de la création de l'ONU, espoir en évoquant les perspectives de la réforme de cette organisation pour qu'elle soit, n'est-ce pas, à la hauteur des défis auxquels l'humanité est confrontée. Mais déception dans la mesure où le monde fait face aux multiples défis que l'organisation continentale peine à apporter des solutions idoines. Mais aussi déception par rapport à l'instabilité, à la guerre que vit la région des Grands Lacs et particulièrement l'est de la RDC.
Le président Tshisekedi a appelé la communauté internationale à reconnaître le génocide des Congolais pour des fins économiques génocide. En ce moment où le monde vit des crises multiples, notamment à Gaza, en Ukraine, en Somalie, pensez-vous que la voix de la RDC sera entendue?
La mobilisation de la communauté internationale pour que la voix congolaise soit entendue, malgré qu'il y a plusieurs crises au travers le monde, cela dépendra de deux manières. D'abord, des efforts que la RDC va déployer, et au niveau interne, mais aussi au niveau externe. Ça, c'est de un, parce qu'on ne le dit jamais assez. Les partenaires ou la communauté internationale suivent une dynamique, la dynamique interne et la dynamique externe. Mais de deux, la voix congolaise pourra être entendue dans les instances internationales par rapport à la reconnaissance sens des génocides, cela dépendra du choix stratégique de ses alliés. Lorsque vous choisissez des alliés stratégiques qui peuvent vous appuyer et vous accompagner dans les efforts que vous déployez et au niveau interne et au niveau externe, à ce moment-là, ces alliés peuvent devenir, si vous voulez bien, des relais de votre voix dans d'autres instances. Dans les cas contraires, ça risque d'être une parole d'évangile qui, quelques temps après, risque d'être mise dans les tiroirs et ce sera malheureusement de la peine perdue.
Le président de la République est revenu sur les négociations de Doha et de Washington. Quel est votre avis par rapport à l'avancée de ces négociations pendant que sur terrain, les combats ne font que s'amplifier?
C'est vrai, nous saluons les efforts des négociations de Doha et de Washington, mais il faut préciser une chose, c'est que la paix définitive ou la paix positive, s'il faut le dire, ne viendra pas ni de Washington ni de Doha, moins encore de Nairobi ou de Luanda. La paix définitive face à la crise à l'Est viendra de la capacité des Congolais à se mettre autour d'une table sans exclure aucun acteur majeur dans ces crises pour parler des questions qui fâchent, des questions qui divisent. Ça fait mal d'entendre ça, mais je crois que c'est ça la réalité. Dans les cas contraires, on va continuer à tourner à rond et que Washington, Doha, Nairobi, Luanda, Sun City et ailleurs n'apporteront pas de paix définitive aussi longtemps que les Congolais eux-mêmes ne prendront pas conscience du danger de la guerre, du danger de l'absence de la paix et de se mettre autour d'une table pour parler des questions qui fâchent et sans exclure aucun acteur et en privilégiant l'intérêt général.
Pour terminer, le président Tshisekedi a évoqué la situation climatique catastrophique que traverse le monde en ce moment en présentant la RDC comme pays solution. Pensez-vous que la diplomatie environnementale est efficace et porte ses fruits?
C'est vrai, nous saluons les efforts diplomatiques en matière environnementale, mais je crois qu'il y a encore un chemin à parcourir pour que la diplomatie environnementale ou climatique de la RDC soit efficace et apporte des fruits escomptés. Je crois que cela dépend, n'est-ce pas, d'une mobilisation au niveau interne et au niveau des ministères stratégiques de développement durable, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement et consorts, eh bien, cela peut apporter des efforts significatifs. On ne peut pas être une solution pour d'autres sans en être pour soi.
Frédéric Amani, je vous remercie.
Ce journal est fini. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-le sur notre site internet radiocapi.net.